Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Merci Patrick Boucheron d'être avec nous ce matin. Vous avez été élu en 2015 professeur au Collège de France sur la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle. Vous en êtes le titulaire depuis le 17 décembre 2015, date de votre leçon inaugurale. Vous êtes spécialiste de cette période pendant laquelle la société médiévale se transforme insensiblement pour devenir ce qu'on appelle une société moderne. Alors j'emploie le mot sciemment, le mot moderne étant une notion que vous examinez à la fois au microscope et au télescope dans votre séminaire, on va en parler bien entendu. Vous présidez le conseil scientifique de l'École française de Rome, grande institution scientifique dont le siège se trouve d'ailleurs dans le palais Farnèse avec des sublimes fresques de Carrache, comme on sait, sur les amours des dieux. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire, membre du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois, et du conseil scientifique du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, donc le fameux MUSEM de Marseille. Vous êtes également conseiller éditorial pour la collection L'Univers historique aux éditions du Seuil. Alors, Patrick Boucheron, comment cette passion pour l'histoire s'est-elle emparée de vous et comment envisagez-vous votre métier d'historien ?
La passion pour l'histoire, elle s'est emparée de moi, comme vous le dites, sournoisement. Ça s'est pas fait d'un coup et ça s'est pas fait tout de suite et en tout cas de manière évidente. Je crois pouvoir dire que quand j'étais un petit garçon, je ne m'intéressais pas à l'histoire davantage que ça.
Vous lisiez quoi quand vous étiez petit garçon?
Un peu, d'abord essentiellement des bandes dessinées, faut quand même dire les choses, oui, Tintin. Astérix et Obélix, enfin toutes les Comme. Et puis après j'ai grandi avec les bandes dessinées, voilà, c'était l'âge de fuite glaciale. J'ai été abonné à Actuel et ça c'est quelque chose de formidable, Actuel, cette idée que ce qui doit d'abord nous attirer, c'est ce qui est nouveau et intéressant. C'était le slogan et je crois que ça reste toujours d'actualité, y compris quand on est historien. Être historien, c'est aller chercher dans le passé ce qui est nouveau et intéressant. Mais ça, je le savais pas. Je l'ai découvert petit à petit par les livres, la littérature, puis la philosophie. Et pour moi, l'histoire est la tare venue dans mes études. Et c'est pourquoi, en tant qu'enseignant, j'ai toujours été très admiratif et perplexe face à des étudiants qui aiment ça depuis leur prime enfance. Voilà. Et en particulier le Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, on a avec lui souvent un rapport qui est un rapport empathique, un rapport de enthousiaste, emporté. Et les plus grands médiévistes ont eu parfois ce rapport très enfantin à leur discipline.
Mais Michel Zinc, par exemple, qui l'avoue comme
oui,
tel.
Oui, et donc c'est très...
C'est une passion d'enfance.
C'est une passion
il
d'enfance.
Il aime les chevaliers.
Donc on peut en parler aux enfants, voilà. On peut faire du Moyen-Âge pour enfants.
Il fait d'ailleurs des contes pour enfants.
Oui, et Georges Duby aussi a écrit pour les enfants. Et puis il y a, je pense aussi à Jacques Le Goff, qui avait un rapport enfantin à l'enfance du monde, justement. Bon, alors... Pour moi, ça n'a pas été tout à fait comme ça. Ça veut dire que, au fond, mon rapport à l'histoire en général et à l'histoire du Moyen-Âge en particulier est plus feutré, plus prudent, je crois qu'il n'est pas moins passionné, mais différemment. Voilà, parce qu'il passe par d'autres choses. Il passe par l'amour des villes et par l'amour des livres. Je pense que, au fond, si je voulais ramener ce qui m'a fait à des choses élémentaires, je dirais ceci, c'est-à-dire que ces deux plaisirs jumeaux, qui sont de marcher dans une ville et d'explorer un livre, ce sont ces plaisirs-là qui m'ont constitué.
En fait, si l'histoire fascine, c'est quand même parce que l'historien est un savant qui à la fois tente et réussit parfois d'ailleurs de résoudre des énigmes, et c'est aussi quelqu'un qui ouvre des possibles. Donc vous êtes tout à fait à ce carrefour. Vos travaux ont d'abord donc porté, comme vous disiez, tout de suite sur l'histoire urbaine de l'Italie médiévale et sur l'expression monumentale du pouvoir princier. Vous vous êtes intéressé à ces périodes parce que l'Italie médiévale, et longtemps après d'ailleurs, était composée au fond de cités au sens antique du terme, on pourrait dire, c'est-à-dire une ville importante et ses environs, villages, terres, enfin, etc., avec chacune des régimes politiques en général opposés, en tout cas, et en rivalité avec la ville voisine. Et pour pimenter le tout, donc, il y avait des jeux complexes de la part de Rome et des puissances étrangères, bien entendu, dont la France, par exemple. Alors, c'est un véritable puzzle que vous aviez à résoudre et que vous avez à résoudre, Patrick Boucheron.
Alors, vous dites puzzle, donc on retrouve l'enfance. Vous dites énigme, on la retrouve aussi. Dans tous les cas, je pense que si on veut rendre l'histoire accessible, si on veut l'adresser, si on veut s'engager dans cette disciple, ce métier, il faut le faire à la première personne. Et il faut le faire, j'allais dire, corporellement. Il faut y être. C'est-à-dire, il faut dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui vous parle à un moment donné et qui se situe là. Bon. Tout ça, au fond, ça revient à cette forme qui est une forme indissociablement savante et littéraire qu'on peut appeler l'enquête.
Mais on peut dire que tout savant est quelque part un Sherlock Holmes.
Et c'est ça qui... Alors là, pour le coup, on peut dire que si peu de petits garçons rêvent d'être historiens, tous souhaiteraient être archéologues. Et d'une certaine manière, vous faisiez allusion aussi à mon engagement dans la cause des livres, mes activités éditoriales, je suis convaincu que la forme de l'enquête où effectivement quelqu'un raconte une histoire, mais se raconte aussi en train de la chercher, de l'inventer, d'hésiter à la restituer, c'est véritablement une forme d'histoire qui peut aller devant un public qui, j'en suis convaincu, s'intéresse davantage aux égyptologues qu'aux pharaons et aime à comprendre comment ça se fabrique. Voilà. Et donc tout ça, ça nous amène à cette matérialité un peu têtue de la ville. Oui, j'ai flirté avec l'archéologie, j'en ai fait un petit peu en amateur éclairé. Enfin, quand j'étais étudiant, j'étais piéton, comme on dit. Ça veut dire celui qui gratouille, hein.
Vous avez fait ça où, pardon,
en Italie? À Rome. Ah, ça, c'est une chance. Enfin, d'abord, j'ai fait ça en Picardie, sur des chantiers médiévaux, et puis ensuite à Rome, sur le Palatin, en plus, c'était magnifique, avec mon maître Yvon Thébert, disparu malheureusement trop tôt, et qui était un grand archéologue et un grand historien de la Rome antique, et c'est avec lui que j'ai pris, au fond, la mesure de ce que c'est qu'un lieu d'histoire. Voilà. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, la chose que j'ai faite la plus continuellement dans ma vie, c'est d'organiser des voyages d'études avec des étudiants. J'ai fait ça pendant 20 ans tous les ans. Parce que il y a des lieux pour l'histoire, comme le dit Arlette Farge. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pour se délivrer d'un savoir trop abstrait, parce que purement livresque, justement, il faut y aller voir. Il faut se coltiner avec cette matérialité un peu têtue. Par exemple, d'une ville. Et simplement pour pouvoir comprendre, à Rome, c'est merveilleux, que ça a eu lieu. Mais le lieu, c'est concret, on peut y aller. Voilà, donc trouver des lieux pour l'histoire...
Vous voulez dire que ça a eu un lieu.
Ça a eu un lieu, voilà. Et d'où d'ailleurs ce rapport entre ce que vous venez de me suggérer, une enquête, une énigme, Et puis, donc une narrativité, une forme de narrativité, un suspense, et puis aussi ouvrir des possibles. Mais les deux sont liés par le lieu, si j'ose dire. Puisque, au fond, ce que nous apprend l'archéologie, quand on la pratique et quand on la rêve, voilà, parce que il y a aussi tous les poètes ou tous ceux qui ont fait je pense à Walter Benjamin, enfin des poètes de la pensée. Eh bien, au fond, ce qui les ramène et les rassemble dans la ville toujours comme expérience, c'est ce que moi je tente d'articuler en espacement, entre temps, c'est-à-dire tout ce qui s'ouvre devant nous.
Au fond, comme un nuage qu'on a à dénouer en quelque sorte, un nuage de temporalité,
oui,
qui se retrouve.
Oui, alors on dénoue certains, voilà, certains écheveaux un peu très serrés. Alors vous parlez de l'Italie communale, c'est le type même du nœud tellement serré qu'il en est désespérant, qu'on peut effectivement... avoir le sentiment ou en tout cas la tentation de le trancher. Ah, oh, c'est un nœud d'intrigue, voilà. Les guelfes, les gibelins. Alors moi, pour ça m'étonne. C'est là encore, ça a à voir avec l'enfance. Guelfes, partisans de l'Église, gibelins, partisans de l'empereur, ça me paraît pas insurmontable sur le plan intellectuel, mais je sais pas, ça résiste toujours à la mémorisation. Dès que on dit à un public guelfes, gibelins, ils paniquent. C'est bizarre, hein.
Autant Dante, par exemple, qui s'avouait guelfe blanc, naturellement, qui a été d'ailleurs exilé pour.
Ah, bah oui, parce que ça, voilà.
Il y a les guelfes, il y a aussi les guelfes blancs, blancs,
il y a les noirs,
noirs,
et voilà. Puis parmi les blancs, il y a les modérés, il y a les radicaux.
Bien, bon,
voilà. Mais bien sûr. Mais c'est la vie même. C'est-à-dire que ça se divise.
Enfin, ça a beaucoup divisé l'Italie médiévale, en tout cas.
Mais c'est-à-dire que ce qu'on appelle Italie médiévale est une forme urbaine, voilà, de vie sociale. Et pour moi, cette notion d'expérience communale, c'est ce que j'espère mettre en chantier. Bah, d'ailleurs, dans les séminaires et les cours qui vont venir, expérience communale, ça veut dire à la fois... Il y a eu une expérience politique dans notre devenir historique qui n'est pas simplement scandée par le cours majestueux des États, des nations, mais il y a cette forme d'auto-gouvernement urbain qui a quand même donné des choses un peu spectaculaires à l'Europe. Hein, parce que si on met bout à bout l'Italie communale et princière, les provinces unies, Amsterdam au XVIIe siècle, c'est pas tout à fait rien. Bon, donc là, il y a une expérience qu'il est quand même assez intéressant de réouvrir comme un livre ou comme un chantier archéologique.
Et comme impossible.
Et ça ajoute évidemment, parce que faire commune, c'est évidemment quelque chose qui peut nous intéresser aujourd'hui. Et voilà, et c'est le deuxième sens de expérience communale. C'est une expérience au sens existentiel. Ça nous fait quelque chose. Alors quoi ? Il faut le décrire. Et là, on rejoint un autre chantier de l'histoire, qui n'est pas seulement de l'histoire savante, qui est aussi de l'histoire adressée, l'histoire des émotions, l'histoire des affects, parler de la peur... Parler de la timidité, parler du courage, bon, parler de la colère. Tout cela, je pense, nous ouvre des possibles narratifs et scientifiques pour l'histoire.
Tutto d'amore.
Vous expliquez donc que vous envisagez l'histoire sociale dans toutes ses dimensions, des plus matérielles et concrètes aux plus abstraites. Je ne sais plus où, mais enfin vous dites quelque part que ceci vous a conduit vers deux directions principales. D'une part, la saisie synthétique du fait urbain dans une démarche d'histoire comparée à l'échelle européenne. D'autre part, l'analyse de la sociologie historique de la création artistique à partir de plusieurs enquêtes menées sur la peinture politique. Alors, on connaît votre livre donc « Conjurer la peur », essai sur la force politique des images, qui en est sans doute l'exemple le plus frappant. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est que vous mettez le doigt sur une évidence que personne ne veut voir, à savoir qu'au fond, les images et toutes les représentations étaient à l'époque, aujourd'hui aussi d'ailleurs, l'instrument par excellence des pouvoirs politique et religieux. Il suffit d'aller visiter un certain nombre d'églises, évidemment à Rome par exemple, où on voit qu'il y a des images qui sont de l'enfer, qui sont visiblement des contraintes par corps, hein, franchement, oui, qui vous saisissent et qui vous donnent des cauchemars épouvantables. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau parce que ça affecte le corps, vraiment, comme vous le disiez. Et puis, évidemment, les images ont un pouvoir politique aujourd'hui. Elles sont l'instrument du marché, par exemple. Et on oublie ce genre de choses. Un livre comme « Conjurer la peur » vient nous le rappeler avec beaucoup de bonheur, je trouve.
Merci. C'est vrai que c'est quand même un rêve d'historien que de réactualiser dans un passé très ancien quelque chose qui nous attendait peut-être, qui vient à notre rencontre, qui nous regarde, parce qu'on regarde les images, mais elles nous regardent aussi. Elles sont plus fortes que nous. Elles durent bien plus que nous.
Elles nous imprègnent.
Elles nous imprègnent. C'est Georges Didier Huberman qui, dans ce livre qui s'appelle « Devant le temps », qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, dit quelque chose là de tout simple, d'évident, qui est d'abord une image ancienne, on est contemporain, elle et nous, lorsqu'on la regarde, elle est là avec nous dans la même pièce, voilà, mais elle vient de plus loin, elle a une mémoire, elle a plus de mémoire que nous. Mais aussi, dit-il, elle a plus d'avenir que nous, parce que elle nous survivra, vraisemblablement, et donc...
Espérons-le, en tout cas.
Et donc, nous sommes face à elle.
Espérons que les iconoclastes ne le gagneront pas.
Voilà, et c'est nous qui sommes fragiles face à elle. Donc, tout cela pour dire que, bah, par exemple, c'est ce que vous appelez l'évidence. C'est une évidence,
oui,
mais justement, éclairer l'évidence, ou au contraire, la déplacer. C'est ce que François Hartog appelle l'évidence de l'histoire.
Mais oui, parce que en fait, c'est le cas de la lettre volée en quelque sorte.
Oui.
Hein, c'est devant notre nez, donc on ne le voit pas.
Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire qu'on ne l'ait pas vu. Donc ça, c'est le premier sens d'évidence, c'est-à-dire ce qui est brut, massivement, tellement au fond, ça nous est tellement familier que une des manières de le mettre à distance, c'est de le dépayser un peu, c'est de l'étranger, c'est de le déplacer. Bon, ça c'est la démarche de Carlo Ginzburg. Et puis inversement, symétriquement et de manière articulée, il y a la manière des sociologues beaucoup plus froide et méthodique et évidence. Si on parle en anglais, ça veut dire preuve, qui consiste à dire: si l'histoire, ou si toute forme, je dirais, historicisée d'un savoir engagé et comme voilà l'histoire, a un sens critique, donc participe à l'émancipation, c'est en tant qu'il nous aide à, le mot est atroce, désévidentialiser le monde. C'est-à-dire, au fond,
Rendre étonnant.
Eh oui. Ce qui a un sens à la fois critique et poétique. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. C'est plus intéressant que de ne se laisser étonner par rien. Paul Vane, qui est notre aussi maître en gai savoir, a un mot faussement aveugle, tout simple. Intéressant. C'est intéressant. Ah bah tiens, encore comme ce qu'on disait tout à l'heure. Nouveau et intéressant. C'est intéressant. Et on peut s'en souvenir aussi parce que, vous comprenez, les historiens, ils sont toujours en quête d'une justification d'eux-mêmes. C'est très bien, c'est leur gloire. Nous sommes effectivement très liés à une forme d'auto-réflexivité. Mais en même temps, ils oublient de dire que ce qui peut attirer les gens vers l'histoire, c'est que ça les intéresse. Et qu'on n'a pas non plus à justifier de manière contournée notre intérêt. Si c'est intéressant, c'est intéressant. Et ça peut suffire à notre bonheur. Et c'est plus qu'un bonheur, c'est aussi effectivement, je pense, un bonheur utile et efficace parce qu'il nous permet de nous mieux situer dans un monde qui aura fait bouger les catégories de l'étranger et du familier.
Ce qui est aussi très important et intéressant, et ce qui permet de résoudre des énigmes, comme dans Conjurer la peur par exemple, c'est précisément parce que vous ne restez pas face au tableau comme un spécialiste des images. Vous croisez plusieurs histoires, et c'est ce croisement d'histoires qui donne de la vie à la fresque de Sienne. Ce qui donne vie, c'est ce croisement d'histoires que vous autorisez d'une certaine façon.
Je pense que l'histoire comme récit, régime de narration, c'est un art de l'approche et du rapprochement. Voilà. Il faut s'approcher des choses, des lieux, des personnages, du temps et de tout ce qui effectivement nous en restitue l'expérience. Et puis il faut le faire plusieurs fois et ensuite là intervient la création, l'invention, l'imagination. Il faut construire des rapprochements. Ça veut dire des choses. Tout dépend quelle est notre culture ou notre humeur. Si je dis construire des rapprochements, vous pouvez l'imaginer à la mode scientifique, comme une paillasse de chimiste. Et c'est ça. Hein, on fait des expériences. On va rapprocher des substances. On voit ce qui se passe. Mais vous pouvez effectivement aussi. Et c'est pas contradictoire en avoir une compréhension beaucoup plus littéraire et poétique.
Alors, justement, puisqu'on a commencé à parler d'un livre, parlons d'autres livres. Dans votre essai intitulé « Léonard et Machiavel », vous réfléchissez sur les silences de la documentation historique. Donc en juin 1502 à Urbino, dont César Borgia vient de s'emparer, le vieux Léonard et le jeune Machiavel ont dû se croiser. Mais les documents n'en disent rien.
Oui.
Et nous ne pouvons rien en dire. Je vous cite, si l'on tient ferme sur les scrupules de l'historien, qui ne s'avance qu'à pied sec. Bon. Alors, question, faut-il se lancer à l'eau dans le grand bain rafraîchissant de la fiction? Et à défaut de dialogue, vous vous appuyez sur des textes et des documents empruntés à une tranche chronologique un peu large, hein, comme le promeneur sur les cailloux dinguets, pour restituer une situation, disons, vraisemblable.
Oui, même si je n'aime pas beaucoup cette catégorie du vraisemblable, c'est celle avec laquelle, inévitablement, on travaille. Et ensuite, la question, c'est de savoir comment on restitue ce travail. Comment on va, au fond, rendre le tableau, rendre visible l'histoire. Prenons toujours cette métaphore de la fresque. Il y avait deux manières de restaurer une fresque. La manière ancienne, qui nous semble désinvolte, mais qui avait sa forme de d'engagement et de courage, c'était quand on avait une lacune, on peignait au milieu. On imaginait bien que entre ce bord d'une robe rouge et cet autre bord d'une robe rouge, l'écart devait être aussi rouge et on le remplissait de la même couleur. C'est comme ça qu'on rendait invisible l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire, c'est aussi ce qui produit du manque. Bon, on ne fait plus comme ça. On fait l'inverse aujourd'hui. On va de manière rigoureuse, j'allais dire presque austère, dès que de la matière picturale manque, eh bien, les restaurateurs d'aujourd'hui, leur nouvelle doctrine, c'est de mettre une couleur neutre, un mastic entre les deux, pour désigner le manque et non pas cacher. Je dirais que cette question de l'écriture de l'histoire, elle peut métaphoriquement se rapprocher de celle de la restauration d'une fresque. Est-ce qu'on va la lécher? Faire comme si, effectivement, on était devant un tableau qui n'a pas de lacunes et dont on peut tout dire, ou est-ce qu'on va au contraire s'arrêter à chacun de ces accrocs et de dire là ça manque?
C'est-à-dire, il y a un entretien, il y a un livre d'entretien entre Duby et Lardereau,
oui.
Où justement Duby aborde ces questions, les trous de l'histoire. Quoi.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec les trous de l'histoire?
Oui.
À un moment donné, quand même, on est bien obligé de fictionner, de proposer en tout cas des hypothèses. Et dans votre livre, vous proposez tout de même une hypothèse.
Bien sûr.
Et cette hypothèse, elle est en effet vraisemblable. Alors, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais tout de même.
Oui, elle est contextuelle
parce que,
aussi.
Après tout, Urbino est une toute petite ville, que les gens s'y croisaient forcément, que donc, ben voilà, c'est pas parce que l'histoire n'en parle pas que ça n'a pas eu lieu.
Bah, aussi, l'hypothèse de.
Et puis ça rappelle aussi, finalement, ça met du corps à la fois à Léonard et à Machiavel. Enfin,
c'est ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui, bon, en un mot, part du fait établi que Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel sont ensemble au même moment, faisant la même chose, quelque part, dans un lieu.
Déjeunant, par exemple.
Donc on peut imaginer qu'ils se tournent le dos et qu'ils ne se sont jamais adressés la parole. On peut aussi imaginer l'inverse. Bon. Mais en tout cas, ce que ça nous donne à penser, c'est leur contemporanéité. Donc c'est un livre sur qu'est-ce que c'est qu'être contemporain. Il ne suffit pas d'être dans la même pièce, d'avoir le même âge de partager les mêmes activités pour être contemporain. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a une teneur politique aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que sommes-nous vraiment certains d'être contemporains? On se dit citoyen du monde, on se dit cosmopolite, on se dit instantané, on se dit connecté, mais le temps c'est autre chose.
De quoi sommes-nous contemporains ?
Eh oui, le temps c'est autre chose. Et je parle même pas de ces magnifiques expériences de pensée. Vous savez, je pense au livre de Serge Grusinski qui s'appelle Quelle heure est-il là-bas ? C'est-à-dire comment imaginer une sorte de mise en contemporanéité du monde au XVIe siècle. Mais parlons de par exemple de ce qui nous obsède à juste titre dans la société française. C'est-à-dire comment qu'est-ce qu'il y a après l'emploi ? Qu'est-ce qu'il y a après l'emploi ? Entre des gens qui ont, par exemple nous, dont la principale fatigue, c'est l'emploi du temps, c'est-à-dire qui n'avons pas de temps, et qui donc consommons le temps des autres. Et ceux qui en ont tellement, qu'ils en sont proprement désœuvrés, il y a là une brutalité. Le rapport au monde qui fait que nous ne sommes pas contemporains, puisque nous n'avons pas la même, ce que Machiavel dit,
temporalité,
qualità dei tempi,
qualité de temps,
contexture. Alors, nous devons travailler à être contemporains, hein, mais ça nous est pas donné. C'est un travail, c'est un engagement, c'est un effort, c'est une politique.
Contemporain, grâce à vous d'ailleurs, en effet, Patrick Boucheron, c'est Saint-Ambroise.
Ah.
Ambroise de Milan, parce que vient de paraître donc aux éditions de la Sorbonne, la mémoire d'Ambroise de Milan, usage politique et sociaux d'une autorité patristique en Italie, 5e, 18e siècle. Alors, c'est un travail que vous avez élaboré avec Stéphane Giovanni. Saint-Ambroise, donc un des 4 docteurs latins de l'Église avec Augustin, son élève en quelque sorte, son disciple.
Oui.
Saint Jérôme, le patron des traducteurs, sur lequel Valéry Larbeau a fait un livre magnifique.
Oui.
Et puis Saint Grégoire, voilà. Alors, via donc vos travaux sur Ambroise, on peut dire que vous réévaluez l'histoire de la patristique et sa temporalité, justement. Saint Ambroise, c'est 5e, 18e siècle. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur ce 5e, 18e siècle, cette temporalité si large pour un père de l'Église?
Alors, si j'avais à donner les vraies dates de l'enquête, ça serait 15e, 5e siècle, à rebours.
À rebours, oui.
Et ensuite, 5e, 18e siècle. Voilà. Il y a un point de répulsion. Donc, il faut que j'explique un petit peu, ça va pas être long. Rien ne m'engageait travailler sur la patristique, donc l'étude des pères de l'Église. D'ailleurs, j'ai juste travaillé à pouvoir lire et comprendre les études de patristique, rien d'autre, et oui. L'archéologie, etc. C'est-à-dire travailler à construire des rapprochements. C'est la même chose entre l'histoire de la liturgie, l'histoire de l'archéologie monumentale, l'histoire littéraire, l'histoire des hymnes, l'histoire politique, etc. Autant de domaines de l'histoire que je propose de mettre en intrigue. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je suis d'abord au départ, vous l'avez dit, un historien du 15e siècle italien, en particulier à Milan. J'avais fait ma thèse sur justement ce que j'ai appelé le pouvoir de bâtir, c'est-à-dire disons la politique édilitaire et monumentale des ducs de Milan. Et les ducs de Milan, ils sont confrontés entre 1447 et 1449 à une révolution qui est une révolution de résurgence républicaine.
Ambrosienne.
Et qui se dit ambrosienne.
Vous parlez de révolution, hein?
Ah ben, c'est comme ça que ça se...
C'est entre les Sforza et les Visconti que les choses se passent. Comme toujours.
Comme, voilà. C'est-à-dire, c'est la fin, c'est juste avant la prise de pouvoir
par les Sforza.
De Francesco Sforza en 1450, et c'est après la mort du dernier Visconti en 1447, il y a une sorte d'entretemps, justement, qui est s'ouvre, et c'est une révolution dans tous les sens que vous voulez donner à ce nom, au sens révolutionnaire, j'essaie de montrer qu'elle en a le tempo, et puis au sens, j'allais dire pré-révolutionnaire, puisque c'est un retour en arrière, et on est bien au Moyen-Âge, qui ne se cherche des âges d'or qu'en arrière. Donc, c'est une résurgence de l'histoire communale. Bon, moi, je m'intéresse à ça. Je m'intéresse à la commune, je m'intéresse à la seigneurie, je m'intéresse à l'état princier. Donc, je me dis, tiens, il y a une épreuve, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une brèche, et dans la brèche, on peut s'engouffrer. Donc, l'enquête, c'était juste dire, ça se fait au nom d'Ambroise. Ça veut dire quoi, au nom de ? Une question pour aujourd'hui. Ce que Jacques Derrida appelait la grave question du nom, au nom de Dieu. Alors, c'est pas, d'accord, ils ont tort de dire qu'ils agissent au nom de Dieu, mais enfin, ils disent quand même Dieu. Là, cela, ils disaient Ambroise, d'où ça venait ? Quelle est la disponibilité sociale du souvenir ? À cela, l'historiographie traditionnelle a une réponse traditionnel, c'est son rôle de dire ben vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle la religion civique, c'est-à-dire qu'on se donne un saint, c'est un patron,
le patron de Milan,
voilà. C'est le patron de tout le monde, et donc là comme on est un petit peu il y a une sorte d'indécision politique, ben on se raccroche à ce qu'on connaît, à ce dont on se souvient, c'est-à-dire c'est cet évêque du 5e siècle. Mais en fait non, c'est le contraire. Puisque on voit que le souvenir d'Ambroise est une mémoire disputée, c'est-à-dire que c'est justement la partie populaire qui tente d'en faire une ressource pour une mobilisation collective. Donc pourquoi ? D'où ça vient ? Ben voilà, là commence l'enquête. Elle est archéologique, c'est-à-dire que si vous... Une enquête, c'est à partir de l'affleurement d'une mémoire.
Et puis alors on dégage des couches.
Là, on dégage des couches et puis on décide pas de s'arrêter. On se dit pas bon bah moi je suis médiéviste donc si c'est plus ancien que le 12e siècle je suis désolé je m'arrête. Bah non, faut continuer. Quand on descend jusqu'où. Alors c'était pas prévu pour moi. C'était même pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça m'a pris 10 ans, un peu plus, que j'aurais à dégager les couches jusqu'à Ambroise lui-même, c'est-à-dire faire Milan de Milan, 15e, 5e siècle. Mais voilà, ça m'a mené jusque-là. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas seulement de faire l'histoire des manipulations du souvenir, parce que ça nous fatigue d'avance, l'histoire d'une propagande, l'histoire des usages et mésusages du passé, bon ok. Je trouvais ça plus intriguant de me situer dans une situation médiévale où il y a une forme d'autorité du passé sur le présent. On peut pas faire n'importe quoi avec le passé.
Mais ça, c'est une leçon pour aujourd'hui. Franchement, Patrick Boucheron, c'est une leçon d'actualité.
Ah, une leçon d'actualité,
oui,
ça
oui.
Me plaît bien comme idée. C'est-à-dire, je pense que les historiens ne doivent pas donner de leçons et que l'histoire elle-même n'en a pas
à donner
ou à administrer. Mais, au fond, si on est historien, c'est que on pense qu'il y a quelque chose à faire et à penser, justement, contre l'arrogance du présent. C'est-à-dire qu'il n'est pas absolument certain que l'aujourd'hui ait toujours raison sur le passé.
Est-ce que même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même peut-être... Ambroise doit être très très...
Surtout aujourd'hui, il y a eu, je crois que c'était en 2009, Dario Fo, qui est prix Nobel de littérature, qui a donné au Piccolo Teatro de Milan un spectacle qui s'appelle Sant'Ambrogio e l'Invenzione di Milano, c'est-à-dire, il a donné un Ambroise révolutionnaire.
Oui, comme d'habitude.
Comme d'habitude,
crypto-communiste. Comme fait toujours Dario Fo.
Et aujourd'hui, Ambroise est comme ce que disait un théologien du XIIe siècle, Alain de Lille, disait des autorités qu'elles avaient un nez de cire, c'est-à-dire qu'on peut leur tordre le nez, et qui va nous amener dans toutes les directions possibles. Donc il y a un Ambroise clérical, il y a un Ambroise traditionnel, il y a un Ambroise révolutionnaire. C'est une ressource d'identité. Les Milanais peuvent se dire ambrosiens quand ils sont plutôt fiers d'eux. Les joueurs de foot, par exemple, il y a deux clubs à Milan. L'Inter de Milan et l'AC Milan. Les deux sont ambrosiens pour la presse sportive, enfin, surtout quand ils gagnent.
Au fond, c'est un synonyme de Milanais, d'une certaine manière.
Oui, alors voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. C'est comment c'est la question du lieu, de la localisation de l'universel. C'est-à-dire comment un des saints docteurs de l'Église, donc un saint universel, peut devenir une ressource d'identité locale. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense que toutes nos disputes politiques, elles résultent de cette articulation entre le local et l'universel. Mmh. Ce que, disons, les études qu'on appelle post-coloniales, et puis au-delà, l'histoire connectée, l'histoire du monde, moi, ça m'a intéressé aussi. J'ai tenté d'y participer à ce mouvement de l'histoire du monde, de l'histoire monde, de l'histoire connectée. Ça consiste à rappeler que ce que nous avons appelé un nous vague mais occidental, l'universel, n'était que l'universalisation de notre point de vue particulier.
Absolument. Tout le monde n'a pas le même universel.
Voilà. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas non plus fait effondrer ce que un anthropologue comme Gérard Lanclus appelle le pari de l'universel. C'est-à-dire qu'on peut, une fois qu'on a rétabli l'opération historique qui consiste effectivement à construire à partir d'un point de vue particulier des valeurs universelles, on peut tout de même faire le pari de son efficacité. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est, là encore, d'une brûlante actualité.
Scoppia un boato d'applausi. Sindaco con la voce bassa e rauca gli tira l'ultima bordata.
Che strano! Non avrei mai detto che una mente colta e ricca di idee sublimi ed erudite come questo nostro vescovo si abbassasse a copiare addirittura gli agitatori più smaccati e di bassa teatralità. Ma questa che ci viene a sciorinare non è roba tua, Ambrogio, ma è la tirata ipocrita d'effetto di Manichei, montanisti, donatisti e pelagiani, demagoghi che sbattono stracci colorati davanti alla plebe ignorante, incitandola a prendersi la terra, perché le loro dire solo chi la lavora ha il diritto di possederla, e quindi bisogna cominciare con eliminare i debiti, già che l'accumulo di denaro.
On parle un peu de vos séminaires, Patrick Boucheron, si vous en êtes d'accord.
Oui.
Vous avez organisé un séminaire sur les effets de la modernité. Moi, ça m'intéressait énormément parce que c'est quand même un mot, c'est probablement une des notions les plus floues qui puissent exister dans la langue française. Donc, ça s'appelle expérience historiographique. Alors, s'il pose un certain nombre de questions importantes et urgentes. Alors, on prévient tout de suite nos auditeurs qu'on ne va pas rentrer ici, évidemment, dans des détails, puisque tout est intéressant. Mais je rappelle, tout de même que c'est à la disposition de tout le monde sur le site internet du Collège de France. On peut écouter absolument tous les séminaires, tous les intervenants au séminaire et aussi d'ailleurs tous vos cours. Alors, vous y posez la question, qu'est-ce que l'État moderne, l'époque moderne, qu'y a-t-il de moderne dans ce qu'on appelle, faute de mieux, la première modernité ? Conçu sous la forme d'un atelier collectif, le séminaire tentera de faire une interrogation sur la périodisation historique, très important, l'amorce d'une réflexion plus ambitieuse, car en repoussant les fins du Moyen-Âge, on espère décaler les termes de la modernité, c'est-à-dire inquiéter, alors ça c'est votre grand tic, absolument. Vous aimez beaucoup inquiéter les mots d'un discours trop convenu sur l'avènement glorieux des temps modernes.
Ça commence juste, on verra ce que ça donne, mais je tiens beaucoup à cette idée-là, on verra ce que ça donne. Le cours, un cours public dans cette institution, le Collège de France, il doit être quand même maîtrisé, mis en récit, etc. Un atelier collectif, c'est ce que doit être le séminaire.
C'est une expérimentation.
C'est une expérimentation à ciel ouvert. Donc, vient qui veut, et si on avait déjà le programme jusqu'au bout, il y a des séances, il y a un programme, mais c'est le programme d'expérience. C'est une manière aussi de prendre un thème assez large qui intéresse les philosophes et les historiens. Et mon idée, en tout cas, c'était la première séance, celle qui a été conduite par Mathieu Pot-Bonneville, qui est formidable philosophe spécialiste de Foucault, c'était de partir de Foucault, mais voilà, en même temps, pas s'y arrêter, mais partir de Foucault. Qui avait un rapport embarrassé avec la modernité et tenter de voir ce qu'on peut faire avec lui et d'autres auteurs qui ont davantage que résolu, exprimé en tout cas le problème d'une période qui est la seule qui nomme les autres et qui se légitime elle-même en nommant les autres. C'est ça la modernité. C'est que évidemment, elle crée une asymétrie tout à fait.
Nous autres modernes.
Voilà, nous autres modernes. Et moi, vous savez, ce qui m'intéresse dans cette expression, c'est nous autres. J'adore cette expression, nous autres. C'est à la fois une manière de dire alors par exemple en espagnol, nous autres, ça c'est une façon, une identité collective très forte. Voilà, nous autres. Nous, en tant qu'on est autre que vous, mais on ne peut entendre. Inversement, nous autres, les autres en nous. Donc nous autres modernes, oui, vous avez raison. Vous venez de trouver le titre, le bon titre du séminaire. Nous autres modernes, c'est exactement ça. Parce que évidemment, si c'est intéressant aujourd'hui, c'est que de ce principe de légitimité de la modernité, nous ne sommes plus sûrs. Mais alors vraiment plus sûrs du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a à sauver dans cette idée de modernité, dans l'idée de progrès ? C'est quand même pas rien du point de vue philosophique, du point de vue historique et du point de vue politique aujourd'hui. Peut-on réarmer philosophiquement et historiquement l'idée de progrès ? Je pense que ça doit être ça qu'on a derrière la tête. Au-delà des querelles de périodisation qui n'intéressent que modérément et poliment les spécialistes. Donc quand je dis s'intéresser aux fins du Moyen-Âge, ça ne veut pas dire quand ça se termine, ça veut dire à quoi ça sert, les fins au sens de finalité. Déplacer les termes de la modernité. Je pense qu'un historien, une historienne, un historien est quelqu'un qui doit se porter devant le temps et tenter de trouver les mots pour dire, voilà, prenons le temps est à prendre. Nous n'avons pas tout le temps, il y a encore un peu de temps. Ça, c'est quelque chose qui m'obsède du point de vue des devoirs que nous avons face à la jeunesse. On ne peut pas dire, quand on a, moi j'ai 50 ans, on ne peut pas dire à des plus jeunes que soi, il est trop tard. C'est pas possible. Absolument. D'abord parce que je crois qu'il n'est jamais trop tard.
On a des devoirs vis-à-vis des générations futures. Enfin,
et il faut avoir trouver un discours
qui ouvre des perspectives.
Bien sûr. parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on a la philosophie de l'histoire qui est prête à accueillir le réarmement, pardon pour ce mot,
non, très bien,
de l'idée de progrès? Pour l'instant, non. Donc, ça veut dire que, au fond, ce qu'il y a derrière, là encore, je pense, cette ambition, c'est ce qu'on pourrait appeler en langage philosophique une critique de la critique. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de faire de l'histoire un savoir destructeur. On ne peut plus se contenter de se complaire dans une culture qui est au fond notre culture professionnelle, mais qui est une culture professionnelle au sens où, bah voilà, dans ce cas-là, si c'est ça, si ce n'est qu'une culture professionnelle, alors on va s'y intéresser comme à un artisanat d'art. Et au fait, notre culture professionnelle, c'est la déconstruction. On sait faire ça. On a appris ça à l'université. Déconstruire, c'est plus compliqué que ça. Les évidences, ah, bon, ok, très bien. Mais il y a un moment où face à des récits entraînants, mensongers, il faut pouvoir, eh bien, je le redis encore une fois, réarmer des contre-récits tout aussi entraînants. Et qui, eux, parce que c'est pas parce que on a une ambition littéraire qu'on perd de vue le régime de vérité propre à la narrativité historienne, qui, eux, produisent un discours de vérité.
Alors, excusez-moi, là, je vous interromps, mais peut-être que c'est le moment de vous poser ma petite question, Patrick Boucheron, sur le fait que on vit donc dans une période où l'enseignement de l'histoire devient une urgence, de l'histoire où vous l'entendez, c'est-à-dire rééquiper, au fond, des concepts. Nous avons de très grands historiens. Y a-t-il des équipes qui s'attachent à penser des manuels scolaires un peu moins étriqués? Un Lavis pour notre époque qui intégrerait l'histoire mondiale et en même temps ferait vraiment de l'histoire de France à partir, disons, de Philippe Auguste, hein, qui pourrait dire que la France commence avec Philippe Auguste. Alors on revisiterait la Gaule par exemple avec Jules César, on expliquerait que François Ier était l'allié de Soliman le Magnifique, enfin on pourrait tout à fait permettre au fond un enseignement de l'histoire qui soit rigoureux, chronologique et en même temps ouvert. Est-ce que c'est dans les boîtes quelque part?
On pourrait
Est-ce que
c'est tout un à projet fait. On pourrait hein tout à fait. Alors oui, alors pour le coup,
est-ce qu'il y a des historiens
qui
s'attachent à
notre échange n'a pas été prémédité, mais je travaille en ce moment avec plein d'autres parce que là c'est un travail collectif.
Ah, ça il faut le faire.
À une histoire mondiale de la France par date. Et c'est un projet que je porte avec les éditions du Seuil parce que pour nous, il y a une exigence qui est une exigence politique de penser aujourd'hui une forme non intimidante de savoir, entraînante, tonique, qui produise un récit, après tout, pourquoi pas. On l'espère, allez, on va le dire, populaire, parce que je vais vous dire quelque chose au fond. Où est-il écrit comme fatal que l'histoire populaire doit être réactionnaire?
Oui, ça, c'est sûr.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Et est-ce qu'on peut faire une histoire par date, mais qui soit pas une histoire, vous avez dit, étriquée, c'est vous qui avez dit le mot. Oui, on peut le faire, on va le faire, on va tenter de le faire, on est en train de le faire. Pour l'instant, on s'y met à plusieurs. On peut assumer le collectif aujourd'hui. Alors après, peut-être que il y a une nécessité politique à ce que quelques-uns s'engagent, je veux pas être inconséquent, puisque c'est ce que je disais au début de cette émission, en leur nom propre, s'engagent et adressent ce discours. Mais que ça soit un travail à l'histoire, que le questionnaire de l'historien se soit incroyablement compliqué, c'est quelque chose que... on en a fait l'expérience, puisque j'ai dirigé une histoire du monde au XVe siècle. J'étais pas seul, il y avait une équipe de direction, Julien Loiseau, Yann Potin, Pierre Monet, et puis il y avait 70 auteurs, je crois. Alors on nous a dit, mais enfin quand même, votre truc, vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans, Fernand Braudel, on se compare pas évidemment, mais enfin bon, c'était aussi une ambition d'histoire mondiale, il était tout seul. Et puis vous, vous y mettez à 70, ça veut dire quoi? J'en suis pas très fier, mais j'en ai pas honte non plus. parce que on peut expliquer que aujourd'hui l'histoire, on a beaucoup travaillé quand même, on a beaucoup travaillé, et puis la manière dont Chaunu, Braudel écrivait l'histoire du monde peut nous paraître aujourd'hui, enfin avec nos propres critères, on pourrait plus le faire parce que ça serait désinvolte, et puis parce que la bibliographie a explosé, et puis au fond, on ne doit pas non plus, là encore, c'est une question pour aujourd'hui, s'excuser sans cesse d'être nombreux.
Mais évidemment.
Le collectif est une valeur.
Mais bien sûr, voilà. Absolument. D'autant que maintenant se démultiplient quand même les histoires. L'histoire devient de plus en plus d'ailleurs resserrée. Il y a évidemment l'histoire des mœurs, l'histoire de, je sais pas, de la table, l'histoire de l'art, et dans l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, l'histoire du dessin, l'histoire de la peinture, enfin, etc. Bon, il y a toutes sortes. L'histoire se explose littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est au fond de pouvoir, à partir de toutes ces histoires multiples, essayer en effet de trouver quand même une unité quelque part. Non pas une unité de temps, une unité de, mais en même temps, en effet, quelque chose à transmettre, comme vous le proposez.
Enfin. Bah, c'est une unité de démarche.
Une unité de démarche, en effet, de vision, au fond.
Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint le séminaire sur la modernité, puisque le grand texte, en fait, qui est enclencheur pour nous de notre réflexion collective, c'est quand même qu'est-ce que les Lumières. Vous voyez, on rejoint le problème du progrès. Donc, le texte de Kant, commenté par Foucault, et qui distingue effectivement la modernité comme période de la modernité comme attitude, l'attitude de modernité. L'attitude de modernité, alors si on la définit comme telle, elle peut être active n'importe quand. Elle peut être active chez les stoïciens, chez les scolastiques, voilà. Et une fois qu'on a critiqué tout ça, hein, et on doit le faire, on peut en revanche assumer l'attitude de modernité. Voilà. Donc, cette histoire mondiale de la France, à laquelle nous sommes en train de travailler, elle sera collective. Elle doit l'être. Elle sera adressée au public. Elle doit l'être. Elle sera moderne. Parce que c'est une valeur aussi. C'est une valeur. C'est-à-dire que contre tous ceux qui font profession de déclinisme, qui effectivement nous amènent vers cette paresse intellectuelle qui consiste, parce que c'est tellement, je veux dire, c'est plus facile, qui consiste à constater évidemment la catastrophe en cours, on peut effectivement déjouer cette facilité et ce dandysme de l'apocalypse en rappelant que ce qui a à sauver dans le passé, ce sont ces principes énergiques, on peut l'appeler modernité, on peut l'appeler collectif, etc., qui sont toujours disponibles, si on veut bien, effectivement, voir où ça se passe. Et puis, comme on est historien, on sait que, de toute façon, c'est en revisitant des lieux anciens qu'on pourra inventer du nouveau. Donc, l'histoire de France, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après tout, ça appartient à tout le monde.
Mais justement, il faut que ça appartienne à tout le monde, c'est ça qui est bien. Il faut que cette histoire, tout le monde puisse se l'approprier.
Oui. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est que par histoire mondiale de la France, nous comprenons un réagencement permanent de ce que c'est que la France et de ce que c'est que le monde. Parce que, prenons quelque chose de tout simple, c'est pas forcément une histoire cosmopolite, hein, on va pas non plus faire un contre-récit, mais par exemple, la prise de Béziers, la croisade des Albigeois, 1209, l'ouverture effectivement du royaume de France au Languedoc, c'est une histoire mondiale de la France, parce que où avez-vous vu que jusque-là c'était la France ?
Eh ben,
c'était un autre monde. Et ce monde, il s'ouvre évidemment sur la Méditerranée, sur l'autre rive de la Méditerranée, sur les États latins, voilà, sur le Proche-Orient. Donc, dès lors que la prise de Béziers, c'est une date de l'histoire mondiale de la France, parce que Au fond, si on, et justement, c'est évident si on comprend que bah, la France, à ce moment-là, elle avait été méditerranéenne, narbonnaise à l'époque romaine, et s'était déplacée, effectivement, à l'époque franque, au contraire, au nord. Elle revenait vers son tropisme méditerranéen, et au fur et à mesure, elle affrontait d'autres mondes. Donc, la France, c'est pas toujours la France, et le monde, c'est pas unanimement le monde.
Si et déjà, ça remet en mouvement l'idée que la France est un work in progress.
Voilà.
Quelque chose qui est toujours à être construit, quelque chose, non pas quelque chose sur lequel on est assis, mais quelque chose qu'on doit fabriquer, justement.
Et ça, tout le monde le sait. Enfin, il n'y a pas un historien, effectivement, qui peut prétendre le contraire. Et même, ne faisons pas de mauvais procès, même au dernier Brodel, à l'identité de la France, qui est un livre, évidemment, qui nous embarrasse bien davantage aujourd'hui, aussi pour les usages qu'on a pu en faire, et mes usages, que la Méditerranée. Donc, bien sûr que Brodel, dès les premières pages, dit, voilà, comment ne pas le dire, que la France est une création collective, continue, perpétuelle, etc. Mais il n'en demeure pas moins que il le dit sur un ton qui fait que cette évidence tend à s'estomper ou à s'oublier. Bon, il faut la redire. Il faut la redire avec vigueur, mais la redire ne consiste pas à déconstruire les discours qui sont les discours adverses. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'attitude constamment défensive doit être critiquée. Voilà. Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre des mauvais livres qu'il aurait mieux valu ne pas écrire, ne pas éditer ou ne pas lire. Bon, bah, dans ce cas-là, il y a une manière assez simple d'y répondre, c'est d'entreprendre une autre histoire.
L'entreprendre. Toujours s'engouffrer dans des brèches, finalement, proposer d'autres perspectives, d'autres points de vue.
Ben, nous vivons
d'autres
quand même,
possibles.
Nous vivons dans un monde qui, de toute façon, fait de la diversité des points de vue une valeur positive. Donc, pour l'instant, effectivement, ceux qui croient encore aux valeurs de progrès, disons, sont sur la plus que la défensive. C'est au rugby, on dirait qu'on se fait enfoncer. Enfin, on est complètement dans nos embuts, quoi. Voilà, on a reculé de 70 mètres. Bon, ok, très bien. Le match n'est pas terminé.
Donc, si je vous comprends bien, l'histoire est une discipline de l'avenir.
Oui. Et c'est aussi, pour reprendre un terme de Pierre Bourdieu et repris par des médiévistes comme Joseph Morcel, un sport de combat. Hein, voilà. Et ça se joue collectivement.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec Patrick Boucheron. Nous entendrons de larges extraits de sa leçon inaugurale. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.